Je suis ton parlumeau.
Check my house pour être bien dans votre bien présente.
Sud Radio, on parle immo.
On parle immo, l'émission 100% immo de Sud Radio, c'est maintenant. Bonjour Marc Ezrati.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Sommaire et après le journal de l'immo. On va parler aujourd'hui de coronavirus, quel impact pour l'immobilier. On posera la question à Jean-Christophe Bocongibeau, il est président du site lepartenaire.fr, et à Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Corinne, qu'on retrouvera cette semaine pour un coaching immobilier un peu spécial et entièrement consacré aux questions que vous vous posez en ces temps de crise sanitaire et de confinement. En fin d'émission, le 48 secondes de Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'Immo.
Sud Radio, on parle Immo, le journal.
Avec le-partenaire.fr, le portail immobilier 100% digital qui regroupe annonces, financement et assurances.
Un journal que vous nous présentez, Marc, est intégralement consacré à la crise du coronavirus. On commence avec des annonces fortes.
Le président Macron a annoncé des mesures fortes pour lutter contre la propagation du Covid-19. La trêve hivernale qui devait prendre fin le 31 mars a été reportée de 2 mois. Autre mesure, la réforme des APL est encore une fois reportée.
Alors justement, on poursuit avec des agences immobilières qui baissent les rideaux.
Oui, vous le dites bien, la plupart des agences immobilières ont baissé le rideau cette semaine. C'est le cas également de la plupart des réseaux immobiliers comme Geoquet, Foncia ou encore Century 21 qui placent la plupart de leur personnel en télétravail et leur demandent de rester en contact permanent, mais à distance, avec acquéreurs et vendeurs pour les accompagner et répondre à leurs inquiétudes. Par ailleurs, le Conseil supérieur du notariat a demandé aux notaires de fermer leurs études et de rester eux aussi en contact avec leur clientèle.
Enfin Marc, qu'en est-il des assemblées générales de copropriété qui traditionnellement sont organisées entre mars et avril ?
Les AG de copropriété sont purement et simplement annulés. Pour les AG qui devaient se tenir d'ici fin juin, le mandat du syndic expirera. Entre 30 et 40 000 copropriétés sur 350 000 sont concernées. Cette semaine, le groupe Foncia a tenu à rassurer ses clients en expliquant que la quasi-totalité de la gestion des fluides des copropriétés comme l'eau, l'électricité ou encore le gaz bénéficiaient d'un règlement par prélèvement, ce qui limitera considérablement le risque de coupure.
Merci Marc pour ces infos. Aujourd'hui, on consacre toute l'émission à cette crise sanitaire qui aura de lourdes conséquences sur l'immobilier.
Covid-19, quel impact pour l'immobilier ? Ce matin, on en parle avec Corinne Joly, présidente de PAP.fr, et Jean-Christophe Bocongibeau, président du site lepartenaire.fr. Corinne Joly, bonjour.
Bonjour.
Alors, Corinne, quel est l'impact de la situation actuelle sur l'immobilier ?
Les visites physiques et les signatures sont globalement bloquées puisque chacun doit rester chez soi, donc forcément ça met quand même un coup d'arrêt à l'activité. En revanche, il y a toujours des gens qui cherchent sur Internet, surtout maintenant que tout le monde est confiné, on a quand même le temps de faire ça. Et c'est encore un tout petit peu frais, mais je le dis quand même, hier nous on a vu un tout petit regain d'activité par rapport à mercredi, jeudi. Je pense qu'au début du confinement, il y a eu une vraie sidération parce que la situation est exceptionnelle. Mais là, on commence à prendre conscience que ça va durer un moment. Et comme ça va durer un moment, on se rend compte qu'il va bien falloir que les choses avancent pendant ce temps parce qu'on peut pas toujours attendre 2 mois pour faire avancer une vente ou une location. Et donc, les gens essayent de gérer au maximum en ligne leur projet pour être prêts à signer rapidement à la sortie. Bref, on essaye de préparer la sortie de crise.
Jean-Christophe Bocongibeau, bonjour.
Bonjour Marc.
Le confinement total du pays depuis quelques jours, est-ce que ça va avoir un impact sur le secteur de l'immobilier ?
Alors Marc, il est encore un peu tôt pour quantifier précisément cet impact de la crise sanitaire actuelle. Ce qui est sûr, c'est que quand même les mesures exceptionnelles que nous sommes en train de vivre, elles ont un impact sur le secteur. Donc le premier impact auquel on peut penser, c'est un impact sur la confiance des ménages qui vont probablement reporter leurs projets. Ou le préparer, comme le précise Corinne, le préparer pour ensuite le réaliser rapidement. Mais à l'instant T, la visibilité fait quand même un peu défaut. Et puis un impact aussi qui est très concret, vous l'avez mentionné dans le journal, donc les visites d'appartements, les rendez-vous de financement, les rendez-vous chez le notaire, qui pour le moment sont quand même très compliqués, parce qu'à distance, ça reste un sujet qu'on ne peut pas faire facilement.
Mmh. Corinne Joly, cette crise, elle aura aussi un impact sur les prix, je suppose ?
C'est difficile à dire. Pour l'instant, on ne voit pas d'impact, mais effectivement, c'est extrêmement prématuré. On a quand même des vendeurs qui commencent à s'en inquiéter et ça fait partie de ceux qui se sont un peu précipités pour mettre en vente là parce qu'ils craignent qu'à la sortie ce soit un crash. Parce que c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup beaucoup de la crise sanitaire, mais tout le monde voit bien venir le risque de crise économique qui risque de suivre. Et une crise économique en général, ça a un impact sur l'immobilier et notamment sur les prix. Si le pouvoir d'achat baisse, forcément les prix immobiliers suivront.
Et sur les comportements, Corinne, j'imagine que évidemment, on l'a compris, on n'a pas tellement envie ou pas tellement le droit non plus de faire des visites en ce moment.
Alors oui, effectivement, on n'a pas le droit. Faire une visite de logement, ça fait pas partie des motifs de sortie. Donc non, on n'a pas le droit. Donc là, exactement comme on conseille aux entreprises de faire du télétravail, nous, en ce moment, on accompagne beaucoup nos clients sur les solutions techniques qui leur permettent de gérer le maximum sur Internet. Il y a les solutions de visite virtuelle. Il y a un certain nombre de clients qui avaient eu le temps d'en faire une avant. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elles sont bloquées aussi, puisqu'une visite virtuelle, ça demande qu'un photographe vienne chez vous. Et donc ça non plus, ça n'est plus autorisé. Maintenant, il reste enfin le fait que vous fassiez vous-même une vidéo de votre logement avec votre smartphone. Ça, c'est possible. Nous, en ce moment, on explique à pas mal de gens comment le faire. On a communiqué cette solution auprès de nos clients et il y a un certain nombre de clients qui y ont recours pour justement faire une sorte de télévisite.
Jean-Christophe, rapidement, est-ce que vous pensez qu'à l'issue de cette crise, dont on ne voit pas le bout pour l'instant, on risque de voir les taux d'emprunt augmenter ou encore les conditions d'octroi de prêt se durcir encore un petit peu ?
Alors là aussi, Marc, c'est vrai qu'on est dans le flou. C'est très très tôt pour être affirmatif. Ce qu'on peut se dire, c'est que bon, la Banque Centrale Européenne est en train de prendre la mesure de la crise, de sortir les grands moyens, notamment avec son dernier plan de soutien de 750 milliards d'euros. Et donc ça pourrait faciliter le fait que les taux restent bas. D'un autre côté, ce à quoi il faut s'attendre aussi, c'est que la très forte hausse des dépenses publiques qu'on va constater, à un moment donné, peut aussi, elle, en revanche, avoir un impact sur les taux d'intérêt, parce qu'elle va avoir un impact sur ce qu'on appelle l'OAT à 10 ans. Donc on le voit, c'est encore un peu flou aujourd'hui, mais c'est vrai que ce risque existe à terme d'avoir une montée des taux.
OAT, c'est obligation assimilable du Trésor, c'est la dette française, hein, pour décrypter.
Absolument. Tout à fait.
Jean-Christophe, une question pratique. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui ne pourraient pas rembourser leurs prêts immobiliers dans cette période difficile ? Est-ce qu'ils doivent demander une suspension ?
Alors, Marc, je leur conseille de contacter rapidement leur conseiller. Ils peuvent demander une suspension des échéances pour une durée de 1 à 12 mois. C'est généralement prévu par le prêt qu'ils ont mis en place avec leur banque. Et cette option peut également en fait être mise en place par la banque, même si ça n'a pas été inclus dans l'offre de prêt. Juste un conseil, attention, cette suspension aura un coût, elle engendrera des intérêts supplémentaires compte tenu de l'extension de la durée du prêt. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça n'est pas un déjeuner gratuit, comme on dirait.
Corinne Joly, on voit que chacun s'adapte, enfin en cas, essaye de s'adapter à la situation. C'est quoi les conséquences pour votre entreprise ?
Bah comme vous dites, on doit s'adapter et puis on doit s'adapter très vite. Nous, paradoxalement, on a eu une semaine très très chargée. On doit trouver des solutions rapidement pour que les gens puissent continuer d'avancer en ligne. On doit leur répondre. On a eu énormément de questions cette semaine sur qu'est-ce que je fais, comment j'avance, etc., etc. Donc c'est sûr que pour nous, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup d'explications et puis ça demande un changement des comportements potentiellement des clients. Quand vous prenez un client et que vous lui expliquez comment il va faire une vidéo de son logement pour le mettre en ligne, etc., ça demande de bien expliquer et nous, on a été pas mal débordés cette semaine de ces questions-là et il faut répondre rapidement.
Du coup, vous avez dû fermer des locaux ?
On a fermé tous nos bureaux, on a mis nos salariés en télétravail pour pouvoir continuer d'assurer le service pour les clients. Concrètement, ça signifie qu'on continue de valider les annonces, de contrôler tous les contacts, de suivre les clients par téléphone. Donc on fait le même travail que d'habitude, mais on le fait à distance. Maintenant, effectivement, je pense que heureusement si je puis dire, Internet peut nous permettre de limiter l'impact de cette crise sur nos vies. Il y a 20 ans, le télétravail, ça aurait été beaucoup plus dur et le pays aurait été beaucoup plus à l'arrêt. Donc je pense qu'il faut exploiter ça au maximum et essayer de s'en sortir comme on peut avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui.
Chez vous, Jean-Christophe Bocongibo, ça se passe comment, rapidement ?
Eh ben alors nous, on a aussi dû fermer nos bureaux, mettre en place notre organisation pour suivre, bien entendu, les clients à distance. C'est aujourd'hui impératif. Alors ce qu'on peut constater, la même chose que pour Corinne, c'est qu'il y a une recrudescence de l'utilisation des solutions digitales par les professionnels, notamment pour qu'ils puissent faire des transactions à distance, pour qu'ils puissent échanger des documents avec leurs clients, faire de la signature électronique. Je crois que cette crise sanitaire, elle aura effectivement comme conséquence de souligner l'importance pour les professionnels d'être aujourd'hui super bien équipés avec toutes ces solutions digitales qui existent.
Et le président Macron, Corinne Joly, a annoncé un ensemble de mesures pour les entreprises. Ça vous rassure ?
On sent que vous êtes vraiment rassuré, Corinne.
Ouais, on le sent. Hein. On ne vous voit pas, mais on vous sent.
Pour situer le contexte, nous, on est une PME, on a 200 salariés, on est une entreprise indépendante. Et ce qui est compliqué dans ce genre de cas, c'est que il y a des annonces qui sont faites à la télévision, mais concrètement, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. On ne sait même pas si on est concerné ou pas. On n'a pas les conditions. On n'a pas vraiment une armée de juristes qui peuvent plancher sur le sujet. C'est pas notre travail. Donc moi, ça, c'est jamais le genre de truc qui me rassure. Nous, on vit grâce à nos clients. Et aujourd'hui, c'est ça notre principale préoccupation. C'est que nos clients arrivent à avancer et qu'ils puissent continuer leur projet. C'est pas vraiment les mesures de soutien de l'État dont on voit en plus ces derniers jours qu'il y a quelques mouvements de recul aussi.
Jean-Christophe,
on a entendu
en 10
les déclarations de. Par exemple Muriel Pénicaud s'en prendre au secteur du BTP pour dire que c'était pas normal d'avoir arrêté les chantiers, ce que je trouve quand même hallucinant.
Excusez-moi, voilà,
on a même eu de nous dire de continuer.
On a même eu dans les vraies voix une patronne de bureau d'études qui nous disait c'est quand même amusant puisque nous les chantiers publics c'est les premiers qui ont été arrêtés. Alors c'est quand même amusant.
Ouais. Jean-Christophe Bocongibo, vous avez 10 secondes pour nous dire ce que vous en pensez de ces mesures.
En 10 secondes, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et que c'est assez rassurant. Je crois que le dispositif de chômage partiel qui est mis en œuvre est un dispositif qui devrait permettre à beaucoup d'entreprises de passer la période des 3-6 mois qui s'ouvre devant nous, qui va être une période compliquée pendant laquelle il faut qu'on fasse le dos rond.
En tout cas, merci à vous deux, bon courage pour tout ce que vous faites, hein, et merci encore à vous, hein, c'est très très sympa de nous répondre et de vous rendre disponible pour les auditeurs de Sud Radio. Corinne Joly, on se retrouve avec vous pour un Réponse de Pro dans quelques instants.
Bah oui, parce qu'on marque une petite pause, voilà. Et on revient.
Sud Radio, on parle IMO.
On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio. On est de retour et c'est l'heure de Réponse de Pro.
TAP, site immobilier de particulier à particulier présente.
Sud Radio, on parle IMO, Réponse de Pro.
Et dans Réponse de Pro, on retrouve Corinne Joly pour une nouvelle séance de coaching immobilier. Cette semaine, confinement oblige, on répond à vos questions. Alors Corinne, pendant les semaines qui viennent, on va tenter de répondre aux questions que les auditeurs de Sud Radio, mais aussi que vos clients vous posent. Vos juristes continuent d'ailleurs de répondre aux questions en télétravail, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est face à de nombreux cas inédits, car la situation est sans précédent. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été tranchées clairement dans la loi, et c'est normal. Il n'y a pas encore de jurisprudence, donc il y a beaucoup de cas qui sont un peu flous. Bon, là, je pense qu'il faut après avoir le sens des priorités. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de ralentir la propagation de l'épidémie. Les médecins nous demandent de rester chez nous, donc c'est la première chose qu'on garde à l'esprit. Et ensuite, pour les problèmes que ça entraîne, à défaut d'avoir la loi, on essaye d'avoir le bon sens. Et nous, c'est dans cet esprit qu'on conseille nos clients en ce moment.
Alors, ok, je pense qu'on est tous d'accord hein, pour dire qu'aujourd'hui, la priorité absolue, c'est de respecter ce que nous demandent les médecins. Mais Corinne, concrètement, si on devait déménager pendant la période de confinement, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, en théorie, les déménagements sont autorisés, mais ils sont fortement déconseillés. C'est assez paradoxal et c'est même assez incohérent. En fait, les déménagements ne font pas partie des motifs de sortie, donc ça pourrait dire qu'ils sont interdits. Mais en revanche, les déménageurs, théoriquement, continuent d'avoir le droit d'exercer. Bon, moi, je reviens à ce que nous disent les médecins. Vous êtes censé rester chez vous, donc vous décalez votre déménagement. Si vous êtes vendeur, vous vous mettez d'accord avec l'acheteur pour décaler la date de signature de l'acte. De toute façon, vous êtes tous les deux concernés par le fait de ne pas pouvoir déménager. Et si vous êtes locataire, il faut contacter votre propriétaire actuel pour décaler la date de sortie du logement et contacter le nouveau propriétaire pour décaler la date d'entrée dans les lieux. Voilà, c'est du bon sens pour éviter les conflits et gérer au mieux la situation.
Oui, d'ailleurs, moi je tenais à dire que ce matin, j'ai appelé un commissariat de police qui me disait que non, les déménagements ne seraient plus dérogatoires. Donc, faudra vraiment respecter ce que disent les médecins, c'est-à-dire rester chez soi absolument. Du coup,
mais je voudrais poser une question, mon cher Marc. Si vous avez donné votre préavis et qu'une autre personne prend le logement, vous faites une famille de SDF.
Non. Ça veut dire qu'en fait, chacun reste chez soi. C'est ce que les policiers m'ont expliqué ce matin. On doit s'arranger avec les propriétaires de l'un ou de l'autre. Donc, chacun reste chez lui.
Il faut contacter le propriétaire actuel et le futur propriétaire pour décaler les deux. C'est chacun reste absolument là où il est aujourd'hui.
Du coup, Corinne Joly, financièrement, si on est locataire, on continue de payer le loyer de son logement actuel et en fait, on décale le paiement du prochain loyer.
Ça, c'est la solution la plus simple. Il y a un cas où ça pose problème, là, qu'on a eu cette semaine. C'est des locataires qui ont déjà emménagé dans leur nouveau logement avant le confinement. Mmh. Et ils devaient juste faire un état des lieux de sortie dans les jours qui viennent pour rendre les clés de l'ancien logement. Or, les états des lieux, c'est pareil, ça ne fait pas partie des motifs de sortie non plus. Donc, normalement, c'est bloqué. Du coup, le locataire a toujours les clés. En théorie, il devrait continuer de payer le loyer. Sauf que lui, il a déjà emménagé dans un autre logement et il ne peut probablement pas se permettre d'avoir un double loyer indéfiniment. Nous, dans ce cas, on recommande au propriétaire de ne pas demander le paiement du loyer, étant donné que le locataire n'utilise plus le logement et que la non-remise des clés n'est vraiment pas de son fait.
Mais dites-moi, au fait, il n'a pas été évoqué de suspendre justement les loyers ?
Alors ça, on l'a entendu pas mal cette semaine. Non, ça a été évoqué pour les entreprises uniquement. Pour les habitations, il n'en a jamais été question. Pour le coup, c'est un point sur lequel la loi est claire. Donc non, les loyers ne sont pas suspendus. Si vous êtes locataire, vous n'êtes pas dispensé de payer votre loyer en mars. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir des locataires en difficulté ce mois-ci parce qu'un certain nombre de personnes vont subir une baisse de revenus. Dans ce cas, c'est comme d'habitude, vous prévenez votre propriétaire, vous lui expliquez la situation, pourquoi elle vous impacte, et il sera sûrement compréhensif vu la période.
Mmh. Et pour les entreprises, les commerces, comment ça se passe ?
Alors ça, effectivement, ça a été évoqué, mais ça n'a pas du tout été précisé. On ne sait pas les entreprises qui sont concernées, on ne sait pas comment ça va se passer. La seule chose qu'on peut dire à ce stade, c'est que ce qui a été évoqué, c'est une suspension, pas une franchise. Ça veut dire que vous avez juste un délai supplémentaire, mais que votre loyer de mars, vous le devrez bien au propriétaire. Donc en gros, j'ai envie de dire, vous faites comme d'habitude. Si vous pouvez payer votre loyer en mars, payez-le, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra le payer. Et si vous ne pouvez pas parce que votre entreprise, elle, a dû fermer, eh bien, vous prévenez votre propriétaire de vos difficultés, comme d'habitude. Et encore une fois, je pense qu'il sera tolérant parce qu'il est évident que les circonstances sont particulières.
Absolument. Et dites-moi, il y a pas mal de questions aussi qui nous arrivent concernant les locations vacances. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ?
Alors, évidemment, les vacances sont annulées. La question, c'est de savoir si le propriétaire doit rendre la compte au locataire ou pas. Alors là-dessus aussi, la loi ne tranche pas clairement. En gros, le contrat est reporté ou annulé et le propriétaire doit rembourser le locataire s'il y a un cas de force majeure.
Et là, en fait, il y a un cas de force majeure, c'est clair, non ?
Eh bien, c'est pas si clair, ça dépend des cas. Un cas de force majeure, entre autres, c'est un événement qui est imprévisible. Alors, si vous avez réservé vos vacances en décembre 2019, là, il n'y a pas de doute, vous ne pouviez pas prévoir à cette date ce qui allait se passer, vous êtes dans un cas de force majeure, le contrat est annulé et le propriétaire doit vous rembourser votre acompte. Mais si, par exemple, vous avez réservé en février 2020, là, on pouvait vous dire que l'épidémie, elle était déjà un peu prévisible. Et dans ce cas, le cas de force majeure ne s'applique plus. Il y a un autre cas qui n'est pas clair, c'est si vos vacances sont postérieures à la date de confinement. Là, dans ce cas, on pourrait dire que c'est vous qui faites le choix d'annuler, mais que vous n'êtes pas dans un cas de force majeure. Si vous n'êtes pas dans un cas de force majeure, en théorie, le propriétaire peut garder l'acompte. Maintenant, nous, en ce moment, on conseille quand même aux propriétaires de rendre les acomptes parce que on voit bien quand même que les locataires subissent la situation de plein fouet et que, bon, moi, franchement, dire qu'en février 2020, ils pouvaient prévoir qu'on allait être confinés, je pense que c'est un petit peu exagéré. Maintenant, j'y mets quand même un bémol. On a contacté. Le truc, c'est que cette mauvaise foi, nous, on a contacté une assurance annulation. Et elle a considéré que la date pivot, c'était le 1er janvier 2020. C'est-à-dire qu'elle a considéré qu'après cette date, si vous avez réservé des vacances, c'était à vos risques et périls.
Mais le 1er janvier 2020, ça fait quand même super tôt, ça, non, Corinne ?
Oui, nous aussi, ça nous semble hyper tôt.
Il n'y avait pas eu un cas en France.
Oui, c'est vrai, il n'y avait pas de cas en France.
Oui, mais ils se sont dit, bah voilà, c'était connu, l'épidémie était connue, donc le cas de force majeure était prévisible. Bon, il faut savoir que jusqu'à présent, aucune épidémie n'a donné lieu à ce qu'on déclenche le cas de force majeure. Bon, maintenant, celle-là est quand même particulière. Donc, peut-être que ça évoluera. Les tribunaux pourront de toute façon toujours trancher comme ils veulent. Mais en attendant que les tribunaux tranchent, il faut quand même prendre des décisions. Donc là, j'en reviens à ce que je disais au début, il faut avoir du bon sens et puis la bonne intelligence. Nous, ce qu'on conseille aux propriétaires, c'est d'abord de proposer un report des vacances. Si le locataire accepte, tant mieux. Sinon, le plus sûr, évidemment, c'est de rembourser l'acompte parce que là, quand même, le bon sens nous dit qu'on est bien dans un cas de force majeure. Bon, maintenant, il faut être lucide, les propriétaires aussi sont vraiment en difficulté. Le secteur du tourisme est très, très, très impacté par cette crise. Donc, il y a des propriétaires qui ne peuvent pas se permettre de rembourser les acomptes.
Ok, donc on voit, Corinne, que la loi n'est pas très claire sur un ensemble de points. Ça va pas être simple de gérer tout ça, non ?
Pour l'instant, la grande majorité des personnes qu'on a eues en ligne sont de bonne volonté. Elles comprennent vraiment le caractère exceptionnel de la situation et essayent de faire au mieux. Elles acceptent qu'elles vont probablement perdre quelque chose, un loyer, un acompte, et que ce n'est pas la faute de leur interlocuteur. Donc ça va. Maintenant, il est évident qu'il va y avoir des difficultés financières chez un ensemble de personnes. Et donc là, on sera au-delà d'un problème de bonne volonté. On sera basiquement dans des gens... Si vous avez un locataire qui a besoin de récupérer son acompte et un propriétaire qui a besoin de garder l'acompte parce qu'il n'a pas du tout l'argent, ça entraînera un conflit, c'est mécanique.
Merci Corinne Joly, on aura compris votre message aujourd'hui, il se réduit à tout simplement rester chez vous. Pour ceux qui nous écoutent, hein, oui c'est ça hein, Philippe David, rester chez vous et restons chez nous. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent eux aussi bénéficier d'un coaching immobilier, et ben il suffit de s'inscrire gratuitement sur pap.fr. Réponse de pro, c'est terminé pour aujourd'hui.
Sud Radio, on parle immo, réponse de pro.
Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.
Et c'est le moment de retrouver Frédéric Fougerolles, 48 secondes.
Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes.
Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité.
Bonjour Frédéric Fougerolles, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, est-ce que le syndic peut se passer de l'accord des copropriétaires pour effectuer des travaux urgents ?
Bonjour Marc. Pour commencer, rappelons les missions du métier de syndic ou de gestionnaire de copropriété. La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic a l'obligation d'administrer l'immeuble, c'est-à-dire de pourvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder à l'exécution des travaux nécessaires à sa sauvegarde. Ensuite, à quel moment y a-t-il urgence ? Quand l'immeuble est susceptible de devenir impropre à sa destination, c'est-à-dire que le bâti n'est plus étanche, ni à l'air ni à l'eau, c'est aussi le cas par exemple s'il y a un réel enjeu de sécurité pour les occupants, comme un trou dans un mur qui donnerait directement accès sur l'extérieur. Le gestionnaire de l'immeuble au nom du syndic doit alors se rendre dans l'immeuble pour poser un diagnostic et informer le conseil syndical, les copropriétaires et l'ensemble des occupants en toute transparence. Le syndic, qui est supposé bien connaître l'immeuble qu'il gère, comme son historique, sera alors en mesure de proposer les réparations nécessaires à effectuer. À partir de là, oui, le syndic peut engager des travaux en cas d'urgence et en parallèle convoquer une assemblée générale dans un délai dit réduit, 8 jours, pour entériner les appels de fonds nécessaires. Voilà Marc, maintenant vous comprenez mieux ce qu'est la responsabilité du syndic qui, en cas d'urgence, doit à la fois informer le conseil syndical et les copropriétaires, garantir la mise en sécurité de l'immeuble et de ses occupants, lancer les travaux et enfin convoquer une assemblée générale.
Merci Frédéric Fougerolles. On rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve comme chaque semaine sur la playlist Efficity by Foncia, sur la chaîne YouTube de Foncia. À la semaine prochaine.
On parle immo, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on vous retrouve Philippe avec Corinne Joly et Christophe Dupont de la société TechWest, une filiale de Foncia, spécialisée dans le traitement des nuisibles et des virus. On a un petit mot, hein, Philippe, et moi aussi pour un de nos amis. Hein. Philippe, je vous laisse la parole.
Oui, on l'a entendu à 7h45 sur Sud Radio. Toute l'équipe dont on parle immo embrasse très fort Laurent et Jean et sa famille. On veut lui passer le message.
Voilà, bah écoutez, moi aussi je l'embrasse, hein, je lui apporte mon soutien et toute mon affection pendant cette période difficile pour lui. Je vous souhaite, Philippe, malgré tout, un bon week-end de confinement, une très belle semaine à toutes et à tous, et surtout, prenez soin de vous et de vos proches, et on ne le répétera pas assez, pour sauver des vies, restez chez vous.
Merci Marc, à suivre Natacha Harry et vos animaux.
Avec Check My House, pour être bien dans votre bien.